Alors, nous allons commencer. Aujourd'hui, dans la première rencontre, en parlant des anges dans l'Ancien Testament et cet après-midi dans le Nouveau Testament. C'est-à-dire que nous allons faire une lecture très simple, hein, très simple, pour ensuite rentrer dans plus de connaissances plus difficiles. Donc cette journée, c'est une journée simple, mais simplement pour se rappeler que ce n'est pas uniquement la connaissance que nous pouvons prendre, c'est nécessaire, de ce monde angélique, mais c'est surtout que cette retraite soit pour nous une occasion vraiment d'une grâce, pour mieux vivre cette fraternité, cette communion que nous avons avec les anges, et spécialement avec notre ange gardien. Voilà, c'est surtout cela, la grâce d'une communion que nous demandons au Seigneur au cours de cette retraite. Alors, les anges sont des serviteurs, premièrement. Les Hébreux qui ont formé le peuple de Dieu n'étaient qu'un petit groupe, on le sait. Et Abraham, leur ancêtre, qui a vécu vers 1800 ans avant Jésus-Christ, il a reçu la révélation. Et il est devenu le peuple de Dieu. Ce peuple qui a vécu au milieu des autres peuples, marqué par le péché d'origine, qui faisait des idolâtres. Il croyait en de nombreux esprits, sans bien distinguer Dieu. Le Seigneur, en prenant possession de ce peuple, pour révéler la vérité de son être parfait, transcendant, a donc travaillé lentement au cours des ans pour former ce peuple qui eut souvent du mal à devenir le peuple de Dieu. Et les livres saints de l'Ancien Testament nous rapportent des apparitions d'êtres célestes qui ont des formes humaines, alors du nom d'ange. C'est le cas de l'ange qu'on appelle l'ange du Seigneur, qui peut être un ange, mais aussi une sorte de doublure de Dieu et par lequel Dieu s'exprime. En fait, les Hébreux ont quand même toujours regardé les anges comme des êtres supérieurs à l'homme, mais inférieurs à Dieu. Ils n'ont pas pu dire en quoi la nature divine se distinguait de la nature angélique. Mais nous avons des affirmations très claires, où Dieu est pour eux unique, supérieur à tout, en tant que créateur de tout ce qui existe. Isaïe, par exemple, disait « Ainsi parle le Seigneur, roi d'Israël, le Seigneur des armées. Son nom est rédempteur. Je suis le premier, je suis le dernier. À part moi, il n'y a pas de Dieu. » Isaïe 44, 6. C'est moi, le Seigneur, qui a fait toutes choses, qui seul a déployé les cieux, a fermé la terre, sans personne avant moi. Cette révélation a distingué le peuple de Dieu de tous les autres peuples de la terre. Les anges sont des ministres de Dieu qui agissent en son nom, qui exécutent ses ordres sans jamais être indépendant de lui. Les anges sont multiples, des foules innombrables, mais Dieu reste le Dieu unique. Eh bien, la question semblable va se poser au sujet du Christ plus tard, à savoir s'il est au même niveau que les autres anges. En quoi leur est-il aussi supérieur ? Ce sera le prédicateur du livre des Hébreux qui répondra, le Fils, resplendissement de la gloire divine, effigie de sa substance, ce Fils qui soutient l'univers par sa parole puissante, ayant accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté dans les hauteurs, devenu d'autant supérieur aux anges que le nom qu'il a reçu en héritage est incomparable au leur. Il n'y a donc pas de confusion entre le Créateur et ses créatures, même les plus élevés. Les anges sont soumis à Dieu comme des serviteurs de sa volonté. Ils sont envoyés par lui pour annoncer ses décrets. Alors voyons les différents messages que le contient l'Ancien Testament. Tout d'abord, les anges, l'ange de Yahvé. Les plus anciennes traditions de l'Ancien Testament sont dominées par la figure de l'ange de Yahvé qui révèle aux hommes la volonté divine. Il se présente comme un messager, mais aussi à l'occasion comme un véritable représentant de Dieu. Et ce flou appelle un discernement pour voir dans des cas précis où il apparaît s'il s'agit d'une doublure de Dieu ou sans plus un messager. Le texte le plus ancien où l'ange est mentionné semble être la bénédiction de Jacob en Genèse 48, versets 15 et 16. Que le Dieu devant lequel ont marché nos pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe et jusqu'à ce jour, l'ange qui m'a délivré de tout mal, bénisse ses enfants. C'est la bénédiction de Jacob à sa descendance. Et une bénédiction dans laquelle on voit que se manifeste une doublure de Dieu dans l'ange. L'ange de Yahvé se présente comme un protecteur du clan dont il participe la vie. Et sa présence est toujours bienfaisante. Et c'est cela le plus important. Par exemple, il avertit le peuple des dangers qui le guettent, en Nombre 22. Il reste le messager même quand on peut discerner en lui Dieu lui-même. Il y a donc une sorte de coexistence entre ces deux aspects que l'ange intègre en lui, d'un côté le messager, et de l'autre côté la présence de Dieu lui-même. Mais qu'il soit l'aspect d'un double de Yahvé ou d'un messager, il n'a toutefois pas d'autre existence ou de fonction qu'en vertu de la libre volonté de Dieu lui-même. Et il fait partie de tous les anges qui constituent la cour céleste. Il est le serviteur, comme les autres, des décisions de Dieu. Et on reconnaîtra plus tard qu'il est en fait le Christ dont il annonce la venue. Et c'est pourquoi on peut le qualifier le Christ avant la chair, à Sarkos, mais présent quand même déjà dans l'histoire d'Israël. Et on dira en fait que c'est lui qui se révèle dans le buisson ardent avant de prendre chair en mari. Et nous avons un exemple de manifestation de l'ange de Yahvé à Manoa dans Juges 13. Manoa le voit comme un homme et l'ange lui répond dans son langage. Mais brusquement, il le voit comme un ange messager monté dans la flamme de Dieu où il avait offert un sacrifice. Et l'ange lui a dit « Mon nom est merveilleux ». Et c'est alors que Manoa a compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Eh bien voilà pour l'ange du Yahvé qui est un rappel de ce que vous avez bien entendu souvent concernant l'ange de Yahvé. Deuxièmement, les chérubins et les séraphins. L'Ancien Testament connaît des chérubins et des séraphins. Les chérubins apparaissent dans le paradis terrestre comme des gardiens du chemin qui mène à l'arbre de vie. On les trouve sculptés sur l'arche d'alliance, brodés sur les tapisseries du temple, dans le sanctuaire. Le prophète Isaïe a la vision des séraphins dans le temple, qu'on connaît très bien puisque c'est notre sanctus, Isaïe 6, 1, où ils se crient l'un à l'autre la sainteté insoutenable de Dieu. Et le prophète Ézéchiel en aura lui aussi une extraordinaire vision lors de la déportation des Juifs à Babylone. C'est le chapitre 1er d'Ézéchiel qui décrit la vision du char du Seigneur. Alors on a donné au premier le nom de chérubin ou kéroubim en hébreu. Et ce mot « kéroub » a été employé pour désigner un taureau, l'animal puissant par excellence, et pour les autres le nom de séraphin ou brûlant. Et tout d'abord les chérubins. Le texte de la Genèse ne dit rien sur la nature, le nombre, ni la forme de ces chérubins. Ce sont néanmoins des êtres personnalisés, des ministres de la puissance divine. Leur action est très définie. Ce sont des gardiens du chemin qui mène à l'arbre de vie pour que personne ne puisse y revenir, soit Adam, soit ses descendants. Et ils y sont à demeure. Le texte véritable ne dit rien sur leur aspect. Mais pour remplir leur mission, ils ont dû être revêtis d'une forme visible, certainement terrifiante, pour que l'homme sache que la fermeture du jardin d'Éden est définitive. Ce sont des esprits supérieurs à l'homme, mais toujours obéissant à Dieu, capables de revêtir à l'occasion une forme sensible. Ces êtres mystérieux, et particulièrement ceux de la vision d'Ézéchiel, que vous connaissez bien, sont représentés à Ninive comme des taureaux ailés et des lions ailés à face humaine. Alors voici, par exemple, une représentation de... Voilà. Chez les Assyriens, ces êtres n'étaient pas des simples sujets décoratifs, mais un être surnaturel était censé résider dans leur corps pour assurer le gardiennage des temples. Et aux yeux de l'Assyrien, ce sont des génies surnaturels qui vivent sous une enveloppe matérielle. Et c'est là qu'ils exercent leur office de gardien puissant. Les chérubins d'or de l'Arche de l'Alliance sont au nombre de deux. Ils sont placés de chaque côté du propitiatoire. Ils ont le visage tourné vers lui et ils étendent leurs ailes de manière à le couvrir. On sait que le propitiatoire, c'est donc un effet d'or pur, c'est le lieu où Dieu fait entendre ses oracles à Moïse. Mais il semble que, contrairement aux kéroubim assyriens, ils ne sont pas des êtres divins, ces deux grands chérubins, car pour les Hébreux, seul Dieu est présent dans l'arche. Ces représentations sont d'inspiration égyptienne, car tout le mobilier du temple est égyptien, sauf les visages humains qui diffère des êtres d'oiseaux du bord du Nil, puisque Moïse lui-même a passé tout son temps en Égypte. Et donc, en fait, il est inspiré par tout ce qu'il a vu en Égypte pour le reproduire ensuite dans le temple. Saint Paul parle de chérubins de gloire en Hébreux 9, 5. Parce que ce sont des êtres sur lesquels rejaillit la gloire du Seigneur. Le roi Salomon fit faire deux grands chérubins de forme colossale dans le Saint des Saints, sculptés en bois d'olivier et recouverts de plaques d'or, haut de 5 mètres, avec des ailes de même longueur. Hein ? On s'imagine là. C'est extraordinaire, 5 mètres de haut, recouverts de plaques d'or, avec des ailes de même longueur de 5 mètres. Ils sont placés de chaque côté de l'arche. Et ils semblent par contre qu'il n'ait plus le même aspect que les chérubins de l'arche. Les animaux symboliques que voit Ézéchiel dans le temple, les animaux symboliques que voit Ézéchiel dans le temple ressemblent aux taureaux ailés des Assyriens. On ne parlera plus de chérubins de ce type dans le second temple, reconstruit en 515. C'est le temple que connaîtra Jésus, puisque toute l'histoire du temple qu'on ne va pas refaire. Les plus étonnants des chérubins sont décrits par Ézéchiel, au chapitre 1er, des versets 5 à 14. Quand Ézéchiel décrit ces chérubins, il a sous les yeux les taureaux ailés de Ninive. Et alors on peut expliquer cette vision en se référant donc aux colosses qui ornaient autrefois les palais assyriens. Les 4 animaux qu'il décrit avaient une ressemblance d'homme. Les taureaux ailés des Assyriens ont une tête d'homme aussi. La tête humaine est coiffé d'une myrte. Vous le voyez sur la représentation que je vous ai donnée, là. Parsemé d'étoiles et surmonté d'une rangée de plumes et armé devant une sorte de série de cornes. Les cornes, superposées l'une à l'autre, s'enroulent autour de la myrte au nombre de 3 pour les taureaux de grande dimension et de 2 pour les autres. La figure a une grande régularité dans les traits, porte une longue barbe frisée avec soin, et l'ensemble donne une impression de calme, de force et de majesté dans cette représentation. Les taureaux ailés ont 4 aspects. Ils sont hommes par le visage, aigles par les ailes, taureau ou lion par le corne et les jambes. Et on a retrouvé dans les structures assyriennes des génies à 4 ailes, dont parle Ézéchiel. Donc ils se sont inspirés de toutes ces représentations. Leur corps, leur dos, leurs mains, leurs ailes étaient remplis d'yeux tout autour. Il s'agit de parties brillantes, étincelantes. Et Ézéchiel dit qu'ils lancent de toutes parts des rayons étincelants. Devant de tels êtres mystérieux, on comprend que le juif Joseph écrit que personne ne peut dire ni ne conjecturer ce qu'ils étaient. Et saint Jérôme écrit aussi que toutes les synagogues des Juifs sont muettes au sujet de son interprétation. Ils disent qu'il est au-dessus des forces de l'homme de tenter d'expliquer comment cette construction du temple a été faite et que la liturgie chrétienne qui donnera le nom de chérubin à l'un de ces neuf cœurs des anges. Alors, voilà pour les chérubins. Pour les séraphins, maintenant, c'est le prophète Isaïe qui a eu la vision de ces êtres célestes, au chapitre 6, versets 2 à 6. Séraphins dont nous reprenons leur nom, leur louange extasiée à chaque Eucharistie. Ils sont représentés avec six ailes, selon la vision du prophète. Deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds, deux pour voler. Le mot séraphin vient de saraf, en hébreu, qui veut dire brûler. Il désigne donc des êtres brûlants, enflammés. Et on se souvient qu'à un certain moment, les Hébreux ont été mordus par des serpents dans le désert, par suite de leurs murmures, et que beaucoup d'autres en moururent. On ne sait pas de quelle espèce étaient ces serpents, très abondants dans la presqu'île du Sinaï. Et c'est pour arrêter ce fléau que Moïse dressa le serpent d'airain, figure du Christ guérisseur. Les Égyptiens avaient le culte du serpent qu'ils représentaient dressé sur une tige de lotus. Et c'est ce qui inspira Moïse. Jésus donne à ses disciples le pouvoir de fouler aux pieds et de saisir impunément des serpents, rappellera Marc en 11-18. Et puis dans l'Apocalypse, nous verrons Jean qui aperçoit Satan sous la forme d'un grand serpent. Isaïe voit dans les séraphins des êtres chargés de proclamer la sainteté de Dieu et de détruire dans l'homme tout péché qui outrage cette majesté. Comment sont-ils représentés? Certainement d'une façon assez proche de celle des chérubins ou des génies à quatre ailes que vit Ézéchiel. Dans la hiérarchie angélique, ils occupent le second cœur, les chérubins et les séraphins. Et bien maintenant, les anges de la libération. Dans l'histoire d'Israël, dans la révélation faite à Abraham, d'un Dieu à la fois un et trine, puisque Abraham est le grand aventurier qui va de campement en campement sous le regard de Dieu. Et pendant tout ce temps de sa migration, c'est le Seigneur lui-même qui soutient Abraham par sa parole. Et voici qu'un épisode qui a une importance très grande pour la révélation de Dieu Trinité se produit aux chênes de Mambré. Et vous connaissez bien encore ce passage. Abraham était assis à l'entrée de sa tente au plus chaud du jour, et voilà qu'il voit trois hommes qui se tenaient debout près de lui. Aussitôt qu'il les vit, il courut à leur rencontre, en les invitant à venir se reposer pour reprendre des forces. Et le repas préparé, Abraham se tient debout pendant que les voyageurs se restaurent, et alors a lieu une conversation où on ne sait s'il y a trois personnages ou un seul. L'un d'eux annonce la naissance tant attendue d'un fils qui sera le sourire de sa mère, Isaac. Que conclure de cet épisode? Eh bien, une intervention effectivement extraordinaire, un miracle qui vient exaucer le profond désir d'Abraham d'avoir enfin un fils de son sang, que la stérilité de sa femme, Sarah, ne pouvait pas lui donner. Bien, nous savons que c'est l'iconographe Roublev qui a voulu signifier dans l'icône bien connue de la visitation des trois anges à Abraham, qui a voulu donc représenter ce Dieu Trinité. Dieu vient combler les désirs les plus profonds du cœur humain et en même temps, son intervention a un effet libérateur pour le monde. En exaucant Abraham, Dieu lui donne un fils qui assurera sa descendance. Et de cette façon, il annonce la venue lointaine d'un enfant libérateur qui sera Jésus, Isaac, le fils qui naîtra et qui sera l'image du Dieu de Dieu venu en ce monde. Après Abraham, vous vous rappelez, Moïse. Toute l'histoire d'Israël est une histoire de libération, en fait. Avec les patriarches, le grand libérateur est Moïse, dont parlera le Seigneur Jésus, et qui apparaîtra avec le prophète Élisée le jour de la transfiguration du Seigneur sur le Tabor. Comment ?
Il y avait le prophète Élisée, c'est avec
Élie. Ah, pardon, le prophète Élie. Oui, excuse-moi. C'est le prophète Élie, oui, très juste. Dieu a choisi Moïse pour libérer son peuple de la servitude d'Égypte. Et il l'a préparé pour cette mission. D'abord en le faisant naître dans une famille d'Hébreux, en le sauvant par une habile intervention de sa sœur auprès de la fille de Pharaon, venue se baigner dans les eaux du fleuve du Nil. Et c'est ainsi que, tout en étant hébreu, il reçut en même temps une éducation égyptienne, ce qui lui permit après de faire ce qu'on a vu là tout à l'heure, de s'inspirer de tout ce qu'il y était en Égypte pour faire son œuvre. Cette œuvre de Moïse marque l'histoire de la révélation de Dieu à l'humanité, qui a eu lieu par le buisson ardent, où Dieu donne son nom. Preuve de son existence, de sa volonté de sauver les hommes qu'il a créés. C'est au cours de la sortie d'Égypte que se manifeste l'ange de Yahvé, car on lit en Exode 14, 19, que l'ange de Yahvé marchait en avant du camp d'Israël. Il se déplaçait et marchait derrière eux. Saint Paul écrit aux Corinthiens que c'était en fait Jésus qui était présent sous le nom de Yahvé. Nos pères ont tous été sous la nuée. Tous ont passé à travers la mer Rouge. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Tous ont mangé le même aliment spirituel et ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ. 1 Corinthiens 10, 3. Ainsi, l'histoire de 40 ans au désert a été l'occasion de très nombreuses interventions divines. Les extraordinaires théophanies, comme celle qui eut lieu sur la montagne du Sinaï. La montagne était toute fumante, parce que l'Éternel était descendu dans le feu, et le feu s'élevait comme une fournaise, et toute la montagne tremblait violemment. Un son de trompette allait en s'amplifiant. Moïse parlait avec Dieu, et Dieu lui répondait dans le tonnerre. Il n'est pas dit explicitement que pendant tout ce temps de la migration vers la terre promise, que des anges se manifestaient dans les différents événements. La Bible a voulu éviter toute confusion qui aurait pu se produire entre Dieu et des esprits intermédiaires. La Bible a voulu affirmer que Dieu seul intervenait, que lui seul était le libérateur de son peuple, pendant ce temps de révélation au désert. Et c'est lorsque le peuple se fut installé que se précisa la manifestation du monde céleste. En effet, après l'installation du peuple hébreu au temps des juges, nous voyons une nouvelle libération du peuple dans l'ange de Yahvé qui vient donner à Gédéon la mission de continuer de libérer son peuple des royaumes environnants qui l'oppriment. Un autre aspect de la mission des anges dans l'Ancien Testament est la transmission de la loi pour la tradition juive. Les anges sont présents au Sinaï quand Moïse va recevoir les tables de la loi. On lit dans un texte grec, à sa droite, des anges accompagnaient le Seigneur. Et saint Paul reprendra cette tradition en écrivant « La loi a été ajoutée à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la descendance. Elle a été promulguée par des anges. » Et un auteur, Joseph, écrit « Nous avons reçu de Dieu, par l'intermédiaire des anges, les plus belles des prescriptions et les plus saintes des lois. » Effectivement, c'est à Israël que Dieu accordera la loi la plus parfaite qui devait s'épanouir avec Jésus dans la nouvelle alliance. Et ce don de la loi est le plus grand bienfait que Dieu a accordé à son peuple. Il n'est pas le seul, car Origène écrit « Les anges servaient le peuple d'Israël dans la loi et dans les autres mystères. » Et saint Hilaire écrit « La loi a été promulguée par les anges, l'homme a mangé le pain des anges. » Il nous dit aussi que durant tout le temps de l'exode d'Israël a été servi par des anges dans que cet exode a été servi par des anges dans le désert. Les anges n'ont pas fait seulement de promulguer la loi, ils ont aussi veillé à sa véritable application. Ainsi, un ange veillait sur la sainteté du temple, car l'arche d'alliance, le propitiatoire, les chérubins, le temple lui-même, ont été donnés à Israël par des anges. Pour saint Paul, la loi sera la révélation de l'Évangile, car l'économie ancienne était provisoire et c'était une préparation à la nouvelle. Bon, voilà un parcours biblique rapide. Pour en arriver à parler maintenant d'un ange précisément, qui est l'archange Saint-Michel, Saint-Raphaël. Tout à l'heure, nous avons lu l'histoire, une partie de l'histoire de Tobie, qui était la révélation de l'ange Raphaël. C'est la révélation d'un mystère de guérison que connaît l'Ancien Testament. Et ce livre de Tobie, c'est un livre merveilleux. On aime bien le lire et le relire. C'est là qu'apparaît le personnage de l'ange Raphaël, dont le nom signifie la guérison de Dieu. Et dans la lecture qu'on fait de ce livre, on voit combien Dieu, par son archange, veut le bien de ceux qui sont intègres, qui prient, qui cherchent sa volonté. Dieu intervient pour réussir le projet de vie de Tobie. De fait, au début, il ne s'agissait que d'une histoire, que d'une question de récupération d'une somme importante laissée dans la parenté de Tobie et qui a décidé d'entreprendre un grand voyage pour aller la récupérer. C'est tout, sans plus. Mais voilà que Dieu envoie son ange Raphaël pour aider ce projet, plus encore. Tobie ignore qui est ce personnage qui vient solliciter son aide, disant qu'il connaît parfaitement la route, qu'il pourra être utile à Tobie. Et Tobie accepte ce compagnon. Les miracles alors se multiplient. Tobie retrouve cet argent, mais surtout, il reçoit sa femme, que Raphaël délivre du démon Asmodée, qui l'enchaînait jusqu'alors. Et Tobie comprend la grandeur de l'aide qui lui a été apportée, que lui a apporté ce compagnon de voyage, qui lui avait proposé, et il lui propose de partager tous les biens récupérés. C'était la lecture de ce matin. C'est alors que Raphaël se fait connaître en disant « Je suis l'un des sept anges qui se tiennent toujours prêts à pénétrer auprès de la gloire de Dieu. » Histoire donc merveilleuse et pleine d'enseignements. D'abord, un enseignement que donne Raphaël sur le sens de la prière. Mieux vaut la prière avec le jeûne et l'aumône, avec la justice, que la richesse avec l'iniquité. Et Raphaël rappelle ce que dira Jésus au jugement dernier, en récompensant ceux qui auront mené une vie selon la justice de Dieu, et punira les égoïstes. La prière est essentielle pour plaire à Dieu, nous le savons, pour connaître sa volonté et l'accomplir. Ceux qui font l'aumône seront rassasiés de jour, ceux qui font le péché et le mal se font du tort à eux-mêmes. Et il ajoute encore une chose très importante pour notre vie de relation avec les saints anges. Lorsque vous étiez en prière, toi et Sarah, c'était moi qui présentais vos supplications devant la gloire du Seigneur et qui les lisais. Là nous est donnée la preuve que Dieu passe volontairement par le mystère des anges pour recevoir nos prières. Nous ne devons pas oublier ce ministère des anges pour notre bien. C'est ce que dit le psaume, que nous prions toujours en présence des anges. Et l'Eucharistie, qui est la grande participation de la terre au ciel, voilà, oui, continue, nous donne alors ce mystérieux pain des anges, qui est le pain que nous recevons dans l'Eucharistie, qui est le corps et le sang de Jésus, mort et ressuscité. Troisième aspect de cet enseignement qui est important, c'est d'éprouver la foi de Tobie. En même temps qu'il a été envoyé par Dieu pour guérir le père de Tobie et sa belle-fille Sarah, Raphaël exerce encore un double ministère, celui d'éprouver notre foi et de nous guérir. Nous comprenons bien ce que cela signifie. Nous risquons si souvent, à cause de nos faiblesses et de la maladie, de perdre courage. Nous avons parfois de la peine à prier et nous tournons en rond, comme on dit, comme si nous avions perdu la joie de vivre. Dans ces moments-là, notre foi faiblit. Nous avons besoin d'une guérison intérieure. Et c'est alors qu'il est bon de rappeler que les anges sont toujours là et qu'ils peuvent nous aider, et en particulier l'archange Raphaël. Voici une prière qui nous est donnée par la tradition. Dirige-nous, Seigneur, sur le chemin de la paix. Nous louons et vénérons tous les princes du ciel, mais surtout le fidèle médecin et compagnon Raphaël, qui s'empara du démon et l'enchaîna. Ô Dieu qui a donné le bienheureux Raphaël pour compagnon de voyage à ton serviteur Tobie, accorde à nous, tes serviteurs, d'être toujours gardés sous ta protection et fortifiés par ton secours. Par le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Eh bien, ce ministère de guérison que nous apporte Raphaël va nous permettre de réfléchir maintenant, si vous voulez bien, sur la question de la guérison aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons des prétendus guérisseurs qui pullulent et qui font de qui font des guérisons un juteux commerce d'abord, et des guérisons dont nous ne savons pas si vraiment ce sont des guérisons. Et sur Internet, nous trouvons des listes de tous ces marchands, dont nous pouvons penser qu'en fait, ce sont des démons qui agissent à travers eux, et on en parlera à la fin de la rencontre. L'Église nous protège de tous ces guérisseurs, de tous ces guérisseurs, en nous offrant les vrais moyens de guérir, qui sont en fait les sacrements, et l'aide des saints anges, et aussi l'aide de nos frères et sœurs dans le royaume. Et dans notre Église, le ministère de guérison est réel et en même temps assez mystérieux, car il est difficile de comprendre comment quelqu'un peut dire que dans une assemblée que telle ou telle personne est en train de guérir de telle maladie ou infirmité. La personne qui l'affirme se dit sentir de l'intérieur de son esprit que, effectivement, Dieu guérit telle personne qu'il nomme. On peut répondre en disant que le don de guérison est un charisme que Jésus a renouvelé dans son Église avec le mouvement charismatique. En fait, la vraie guérison restera toujours le salut en vue de la vie éternelle. Dieu peut donc accorder des miracles de guérison, mais l'Église est toujours prudente et elle prend son temps, à Lourdes particulièrement, avant de prononcer un miracle. Un discernement est toujours absolument nécessaire. Le frère capucin Rganero, quant à la Messa, dans son livre « Viens, Esprit Créateur », a médité sur les Veni Créateurs. Et toi, Jean-Louis, tu nous as mentionné dans ton article « Acquérir l'Esprit » dans la Mondiale numéro 114, tu as traité du charisme, de la guérison. Et je relève là maintenant l'enseignement de ton l'essentiel de ton enseignement. D'abord, une citation de saint Irénée de Lyon qui mentionne que les résurrections et les guérisons physiques opérées par Jésus montrent que le corps est aussi capable d'acquérir l'action du Saint-Esprit. S'il y a guérison, ça veut dire qu'effectivement, notre corps peut, il y a une unité entre le corps et la chair, et l'esprit et le corps. Et il écrit « L'artisan de toutes choses, le Verbe de Dieu, celui-là même qui a remodelé l'homme au commencement, ayant trouvé son ouvrage abîmé par le mal, l'a guéri de toutes les manières possibles, tantôt en restaurant tel ou tel membre en particulier, de la manière qu'il avait été modelé au commencement, tantôt en rendant d'un seul coup à l'homme une parfaite santé et intégrité, afin de se présenter en vue de la résurrection. Et en vérité, quel motif aurait-il eu de guérir les membres de la chair et de les rétablir dans leur forme première, si ce qui guérissait ne devait pas être sauvé définitivement? Presque un tiers de l'Évangile nous montre Jésus en train de guérir des malades et de ressusciter des morts. Il a compassion de cette foule qu'il aime, qui désire la vie, la liberté, la joie de ses créatures. Et il veut pour ses créatures la liberté et la joie. Et Luc rapporte que Jésus envoya proclamer le royaume de Dieu et faire des guérisons. Luc 9, 2. Et alors nous lit en Luc encore 6, 19, qu'une force sortait de lui et les guérissait tous. l'Église apostolique avait soin des malades, dans la certitude que la prière de la foi était de capable de sauver le patient, d'être relevé par le Seigneur. Jacques 5, 15. Quand quelqu'un est malade, dit Saint Jacques, donc on appelle les anciens et on prie en faisant même des onctions. Et la foi va sauver ce malade. C'est Jacques qui est. Nous utilisons cela pour en fait le sacrement des malades. C'est parce qu'il s'est préoccupé de la santé du corps et pas uniquement du salut de l'âme que le christianisme a pu se répandre largement. Jésus était venu comme un médecin qui faisait des guérisons dans la puissance du Saint-Esprit. Et c'est lui qui agit par la grâce du baptême. Ça, et progressivement, une évolution s'est produite. Le don de guérison est devenu comme un charisme particulier, extraordinaire, plutôt lié à la sainteté de la personne qui l'exerce, en faisant d'elle un thaumaturge, un faiseur de miracles. Et ce sont alors des personnes particulières qui l'exercent, dans des lieux saints que les personnes cherchent à visiter pour cela. Et même s'il est vrai que la sainteté joue alors un rôle important, il y a alors un danger à tomber dans une fausse conception du charisme. Et l'Église a créé par la suite toutes sortes d'institutions pour soulager les malades, créant des hôpitaux, des léproseries, des dispensaires. Et alors le charisme, qui au départ était un charisme particulier, s'est trouvé institutionnalisé. L'homme a deux façons de travailler à la guérison. Premièrement, par la technique scientifique. Il faut quand même considérer que c'est très important, puisque nous prenons des médicaments, puisque le Seigneur a mis dans la nature toutes les possibilités de pouvoir être guéri par des plantes. Et donc, la technique scientifique utilise toutes ces ressources de Dieu qu'on trouve dans la création. Et c'est donc un premier important, c'est la première chose qui nous permet de lutter contre la maladie et de guérir. Et la deuxième, c'est la grâce. La grâce qui ouvre par la foi et qui œuvre par la foi et la prière. Et on peut dire alors que tous les autres procédés, tous les autres moyens sont de l'ordre de la magie. Bon, mais je vous dirai plus tard là que quand moi je reçois des personnes par le ministère qui m'a été confié, c'est un discernement très difficile pour voir ce qui effectivement est de l'ordre de la magie ou de l'ordre d'une guérison authentique voulue, donnée par le Seigneur, par l'Esprit Saint à la personne. Aujourd'hui, après le Concile, une nouvelle conscience est manifestée dans le soin des malades, dans la pratique du sacrement et de l'onction. C'est ce qui nous est donné par le sacrement de la prière pour les malades. On n'attend plus, comme jadis, d'être arrivé au seuil de la mort pour donner ce sacrement, car on croit que ce sacrement peut apporter la guérison des maladies, comme nous le lisons en Jacques. Quelqu'un souffre-t-il, qu'il appelle les presbytes de l'Église, qu'il prie sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Ben, je reçois beaucoup, chaque fois aussi que je reçois des personnes, je donne très volontiers ce sacrement de l'onction. Je trouve que c'est un sacrement, cette onction a une puissance vraiment pour aider, pas seulement pour aider, de redonner du courage, mais aussi qu'il y a une efficacité réelle pour la guérison de la personne. Nous obtenons cette guérison en faisant la demande. Bien sûr que quand on agit, c'est toujours par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est par les paroles même que l'Église nous a données, « Fortifie par ta puissance éternelle l'infirmité du corps ». Voilà une parole que nous disons quand nous donnons le sacrement de guérison. Il y a des maladies dont nous ne sommes pas responsables et d'autres qui sont les conséquences de nos fautes, comme l'alcoolisme, la dépendance à la drogue et les abus divers. Dans certains cas, se produit un attachement à sa propre maladie. Il est toujours donc nécessaire que le patient collabore à l'action de l'esprit en éliminant certains obstacles. C'est par la pratique des sacrements que Jésus continue aujourd'hui à guérir dans son Église. C'est-à-dire l'importance de l'Église et qu'il confectionne les sacrements. L'importance de la prière au Saint-Esprit, car la guérison est une œuvre que le Saint-Esprit accomplit. Et tous ceux qui prient et qui... Mais alors, on peut poser aussi une question, bien sûr, et qui se pose régulièrement. Tous ceux qui prient et qui espèrent avec confiance dans la miséricorde du Seigneur et qui sont malades, seront-ils tous guéris ? Hélas, nous voyons effectivement, objectivement, que ce n'est pas le cas. C'est un fait. Et là, nous sommes en face du ministère de la guérison, du mal qui est à l'origine. Mais, après avoir fait ce constat, nous devons croire que la prière, elle a été toujours exaucée et d'une façon qui nous dépasse. Le Seigneur sait l'utiliser dans son propre corps qu'est l'Église. La force de la guérison qu'elle procure peut donc voyager pour atteindre telle personne qui va bénéficier de l'offrande d'un frère ou d'une sœur. On ne peut pas isoler le sacrement de la guérison, le mystère de la guérison, du corps du Christ. Il s'agit de la communion des saints. Et saint Paul lui-même nous dit que il achève en sa chair ce qui manque aux épreuves du Christ pour son corps qui est l'Église. Colossiens 1, 24. Le Christ est notre modèle qui a racheté le monde par sa souffrance et par sa mort. La souffrance est devenue ainsi un instrument de rédemption, une participation à la vie du Christ ressuscité qui continue à sauver le monde par les siens qui sont dans le monde. C'est le sens profond de la souffrance dans le mystère qu'est le nôtre de la vie chrétienne. Le Saint-Esprit permet de vivre autrement l'épreuve de la maladie. Et l'on peut dire que la puissance du Saint-Esprit se déploie davantage en donnant la force de porter la souffrance en union avec le Christ que même en guérissant miraculeusement. Dans l'expérience que nous pouvons avoir les uns et les autres, accompagnant des personnes qui souffrent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un combat, je pense en ce moment à une personne, et que sa guérison sa guérison la plus importante, c'est comme la guérison de son âme. Dans le combat que cette personne mène, bien sûr, le corps est atteint, peut-être même c'est la mort qui arrivera là, qui va finir par triompher dans cette personne. Mais dans ce combat, dans cette situation qu'elle est en train de vivre, moi je ressens combien c'est en fait un très grand combat spirituel qui s'accomplit en elle. Que si elle lâchait prise, si vraiment elle se tournait vers le Seigneur avec confiance, il y aurait quelque chose, une guérison réelle qui se produirait. Peut-être cette guérison atteindrait son corps, mais surtout, elle serait guérie très profondément. Car la guérison, c'est la guérison, en fait, de l'âme qui importe. Le Saint-Esprit vient guérir notre volonté, nos rébellions, nos volontés de puissance, nos froideurs, nos insensibilités à l'amour véritable. En redonnant à la volonté son ordination naturelle vers le bien de l'amour, parce que nous nous détournons trop facilement vers uniquement des biens terrestres. Donc l'attitude chrétienne dans la maladie, c'est bien sûr de prier pour la guérison. Et moi, je ne cesse pas de faire cela aussi en recevant les intentions de prière pour les uns et pour les autres, c'est évident. Mais en fait, c'est l'attitude chrétienne, c'est de supporter dans le Christ la souffrance en sachant que cette souffrance est utile, que c'est elle qui en fait permet au monde de tenir et d'assurer le salut de tant de gens. Devoir supporter les maux au nom du Christ et par amour pour les autres. En fait, la maladie se tourne après en action d'amour pour les autres. Offrir nos épreuves sans désespérer, en renouvelant notre espérance du royaume qui sera pour nous-mêmes et pour les autres pour lesquels nous prions, la récompense. Je voudrais dire un dernier mot, bien que des exorcistes, beaucoup d'exorcistes aujourd'hui, se posent la question de l'origine des dons, des pouvoirs que revendiquent certains guérisseurs, et des guérisseurs de toutes sortes, et qui en profitent financièrement. Il est évident qu'il y a des gens qui ont reçu un don, et non pas un pouvoir, mais un don de guérison. J'ai vu récemment un homme qui a été guéri de sa sciatique par un guérisseur. Est-ce qu'il est vraiment guéri? Et alors, beaucoup d'exorcistes se posent cette question et ils se disent que, en fait, ces gens-là ne font que déplacer la maladie sans atteindre, en fait, la cause. Peut-être que ce serait même le cas de ceux qui éteignent le feu des brûlures. De toute façon, il est certain que Dieu accorde des dons particuliers à des saints et qui manifestent d'une certaine façon ainsi la sainteté de la personne. Mais un discernement est toujours nécessaire, un discernement difficile. Quand vous recevez des personnes qui viennent vous dire qu'ils ont un don, etc., pour essayer de voir et de les voir en elles comment ils interprètent ce pouvoir, comment ils l'ont reçu, etc., pour arriver à les resituer dans la relation au Christ, dans l'Église. Et alors, ça change complètement la vision des choses. Et même pour ces personnes, c'est aussi une conversion. Parce que c'est vraiment dans l'action de l'esprit que nous pouvons donc vivre la maladie et apporter aussi aux autres ce réconfort nécessaire. Et le sens même de la vie, le sens même de la souffrance chrétienne, de la mort chrétienne.